Nous retrouvons, comme tous les jeudis matins, les nouveaux panoramas qui remontent le temps et scandent votre matinée de poésie, d'histoire de l'art et de morceaux sans âge. L'automne aime les instruments à variation polyphonique. Il les fait teinter. Il fait augmenter les potentiels expressifs. Il agit sur ce qui touche les cordes, sensibles, faites de peau et d'acier. Il crée des atmosphères harmoniques et prolonge le son de notes enfoncées sous des feuilles jaunissantes. 36 noires, 52 blanches, alternance de touches, possibilité de nuancer en intensité des cordes frappées par un marteau couvert de feutre. On se couvre d'écharpes chamarrées, on accélère le pas pour contrer les gouttes, la pluie fait les vitres troubles et la mélodie reste. Les cordes sont tendues devant une table d'harmonie contre laquelle elles transmettent leurs vibrations par l'intermédiaire d'un chevalet actionné par l'enfoncement de doigts agiles qui durcissent avec patience heure après heure les touches du clavier. Période de jours intermédiaires, dehors, les arbres se bardent de rouge et de brun confus. Les notes sont des feuilles d'automne, le vent les porte, les déplace, puis les malmène. Elles deviennent autre chose, un son si ténu qu'on pourrait croire l'avoir inventé. Un éclat pris sur le vif, immédiat, en ça, parfait. On ferme les yeux et Bach improvise des fugues à la demande de Frédéric II de Prusse un jeudi matin à Saint-Josse. Comme chaque jeudi, je vous propose une chronique qui se joue des mythologies, un article de presse, une photographie de vacances, des objets de consommation, des fibres optiques, une grammaire africaine, de l'infraordinaire, des jartels affriolants, des colifichets, des rebuts, des continents perdus. Un catalogue de matériaux qui interroge la vie moderne sans tête de chapitre. Aujourd'hui, nous passerons à la moulinette ce qui fait actualité et fait les représentations collectives en quête de perfection, d'amour et de sentiment, comme si quelques lettres bien trouvées permettaient de donner la clé de l'univers.
Thank you.
Gagner sa vie en jouant du piano, c'est savoir compter sur ses doigts, faire des listes, et du monde une vibration. Rentrer en contact direct avec l'âme humaine, définir les principes de nécessité intérieure, créer des harmoniques supplémentaires, enrichir les sons aigus, par un effet de filtre, réduire l'énergie de l'acier trempé. Une fois légèrement désaccordée, ajouter de la brillance inharmonique, la mélanger au spectre flouté des cordes. Commencer tôt le piano comme le crime si on veut atteindre une certaine virtuosité. Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Tchaïkovski, Rachmaninov, Scriabine, Prokofiev, Chostakovitch, Stravinsky, Bartok, Debussy, Ravel, Satie, Fauré, Albéniz, Granados, Peterson, Basie, Ellington, Monk, Evans, Hancock sont intemporels et font vibrer les cordes en sympathie. Pour construire le tempérament d'un morceau, on utilise une octave de référence qui sert de modèle. On l'extrait de tous les autres, on lui crée un espace sur la partition, on lui donne du volume dans les arrangements. L'octave prend vie sous une table en épicéa ou en tilleul. Le bois vénule, un grain fin, sans défaut. Et l'intervalle séparant deux sons se joue sur des touches recouvertes d'ébène et d'ivoire. 60 pièces mécaniques sont mises en jeu pour produire le son d'une note. Chacune s'égaye de petits décalages qui exercent une influence directe sur l'âme. L'âme badine à contre-temps sur les faubourgs de la capitale. Les arbres à feuilles caduques se préparent à passer en dormance pour l'hiver, font des réserves qui serviront à la production de bourgeons lors de la montée de sève au printemps. Ils se débarrassent de leurs ramures fines et souples qui risquent de geler. L'arbre récupère les substances utiles présentes dans les feuilles, les stocke et les recycle pour les optimiser au beau jour. L'âme cherche derrière les structures en bois le raffinement des méthodes de construction. Solitude peuplée, la ville arc-boutée sur le temps ne cesse plus de changer de figure. Babylone de sensations, on marche en butte une nuit durant. On croise des cordes sur un piano carré, pluralité sonore, combinaison d'urbanité et de rêverie. Le bitume a aussi à raconter. Les voix perdues, le crissement des pneus, une porte qui claque, un rire au loin, des talons scandaleux qui martèlent l'asphalte, un coup de pied rageur dans une poubelle défoncée, la vie qui grouille, qui formule des sons auxquels on ne prête pas d'importance et qui pourtant font l'identité de la ville. On marche longtemps, la rumeur se tamise, les volets sont clos, les yeux fermés. En deçà d'un long intervalle de silence, une certaine élasticité d'âme est préservée. Et quelques années d'exploration suffisent à stabiliser un accord. On marche et on pense aux unions, celles des hommes comme celles des cordes. On pense aux moyens de les préserver et aux outils à mobiliser. De la diplomatie aux clés à 8 branches, munies d'un embout rectangulaire qui agissent sur les pianos antiques, comme sur les rangs du marcheur nocturne. Leur taille correspond à celle des têtes de cheville. On se souvient que pour obtenir une harmonie, il ne faut pas hésiter à effectuer avant l'accord un, voire deux ou trois pinçages, dispensés par un amant régulier ou une rencontre de hasard. On s'inspire des techniques de rééquilibrage des tensions employées pour remonter son diapason. On fait jouer la corde sensible. On remonte le temps. On progresse sur la recherche des mécaniques solides, aussi légères que possible. On pense aux accessoires des jeunes filles dans les tableaux de Renoir. On traverse l'époque classique avec la sonate, la fantaisie, la bagatelle et autres formes aristocratiques. On ne néglige pas les formes libres, d'origines diverses, que sont la nocturne, l'impromptu, le scherzo, la ballade, la fantaisie, la mazurka, la valse, la rhapsodie, le prélude. Du luth au clavecin, on revient toujours au piano. Ses 88 touches, ses 200 fins cordes, et autant de chevilles prêtes à nous donner une leçon. Une femme, deux hommes, un piano, le désir, un triangle amoureux. L'étude des dualités, une mélodie entêtante et envoûtante, de celle qui nous berce et nous subjugue avant même que l'histoire ne commence. Une voix off, un personnage muet, qui pourtant nous dévoile sa voix, son timbre et ses pensées. Un instrument précieux qu'on vend et qu'on est obligé de marchander, avant de se marchander, pour récupérer ce qu'on désire. Tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour jouir des 7 notes de la gamme diachronique, comme des 5 restantes de la gamme chromatique. Quand certains ne savent jouer d'aucun instrument, les collectionnent sans jamais les toucher, retardent le moment de soulever le couvercle noir, sont intimidés par les touches, se prosternent devant la majesté de l'objet, ont refusé les gammes consciencieuses comme le conservatoire, ne se rend ni au concert ni à l'opéra, ne chante ni n'improvise, mais rêve de gammes sataniques, de lécher les touches et de se fondre dans la matière. Nous venons d'écouter une des 3 gynopédies d'Erik Satie, la deuxième, qui a été publiée en 1888 à Paris. Pièce éthérée, les 3 morceaux sont écrits selon un rythme à 3/4 et ont tous un thème et une structure similaire. Pour l'anecdote, Satie a choisi le terme de gynopédie en référence à une danse pratiquée par de jeunes danseurs nus à Sparte, mentionnée par Plutarque dans son traité de la musique. C'était les Nouveaux Panoramas, nous sommes toujours sur Radio Panique. Il est 8h39, belle journée, à la semaine prochaine.